Bonjour, frères et sœurs. On a commencé la semaine passée le livre d'Esther. En fait, c'est une série. Après, on va étudier Esdras et Néhémie. Donc, c'est trois livres qui se situent à l'époque de l'exil. Donc, le peuple d'Israël a été détruit par le roi Nebuchadnezzar. On voit ça dans les livres de rois, de chroniques. Et ils ont été expatriés. Ceux qui ont survécu étaient en petit nombre, mais Dieu s'est gardé un reste. Ils ont été expatriés à Babylone. Et ensuite, Babylone a été envahie par les Mèdes et les Perses, donc c'est devenu l'Empire perse. On se situe à peu près 70 ans après, donc vers la fin de l'époque de l'exil. C'est à peu près au moment aussi où est-ce que un groupe de Juifs est revenu en Israël. On voit ça dans le début du livre d'Esdras. Mais quand même, beaucoup de Juifs habitent encore dans les provinces de l'Empire perse, qui est un très grand empire, là, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc vraiment, c'était comme la terre connue de l'époque. Là. Il était sous l'Empire perse. Il y avait la Grèce qui résistait à l'envahisseur. Là, mais l'homme le plus puissant sur la terre, c'était le roi Assuérus. Et on a vu dans les deux premiers chapitres que Dieu est intervenu d'une manière inattendue, où la reine Vasti, la reine de Perse, a mis le roi en colère et elle a été destituée finalement. Donc là, le royaume se trouvait sans reine et plus tard, le roi était plein de nostalgie et ses conseillers lui ont suggéré de faire un grand concours de beauté là, dans l'Empire perse. Et c'est la reine Esther. Bien, c'est Esther qui n'était pas encore reine, mais Esther, une simple juive orpheline qui a conquis les cœurs de tout le monde par sa beauté, mais aussi par son attitude, sa douceur. Et elle a été nommée la reine, mais elle avait caché sa nationalité d'origine. Donc, personne ne savait qu'elle était juive. Dans le palais, en tout cas. Et on ne sait pas trop pourquoi Mardoché lui a demandé ça, son tuteur, mais on l'apprend par la suite que, finalement, on apprend à quel point les Juifs étaient détestés, victimes de racisme, on peut dire, dans l'Empire, en particulier par un haut gradé, là, par Aman. Donc, ils étaient victimes de la haine des méchants contre le peuple de Dieu. Puis ça va demander du courage. Comme on l'a chanté ce matin, c'est un bon chant, là, que nous allons de ville en village, nous voulons annoncer l'Évangile, mais des fois notre courage peut manquer et on se tourne vers Dieu. C'est un des thèmes ce matin dans le passage qu'on lit. Donc on va étudier Esther 3 et 4, mais on va commencer par Esther 3. Esther, chapitre 3, dans l'Ancien Testament. Après ces événements, donc après que Esther soit devenue reine, le roi Assuérus distingua Aman, fils de Hammedata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les princes de son rang. Tous les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale s'inclinaient, se prosternaient en l'honneur de Aman. Et le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardoché ne s'inclinait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale dirent à Mardoché, « Mais pourquoi passes-tu outre l'ordre du roi? » Et ils lui posaient la question à chaque jour, mais il ne les écoutait pas. Ils firent alors un rapport à Aman pour voir si Mardoché, qui leur avait rapporté qu'il était juif, s'en tiendrait à son attitude. Et Aman vit que Mardoché ne s'inclinait ni ne se prosternait en son honneur. Et Aman fut rempli de fureur. Il considéra avec dédain l'idée de porter la main sur le seul Mardoché. On lui avait signalé en effet que le peuple auquel appartenait Mardoché. Bien, on lui avait signalé finalement que le peuple était les Juifs. Et Aman entreprit d'exterminer de tout le royaume d'Assuérus tous les Juifs, le peuple de Mardoché. Le premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du règne d'Assuérus, en présence de Aman, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour, du premier jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Aman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple à part. Ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi les distingue de tout peuple. Ils n'exécutent point les lois du roi. » Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Qu'il plaise au roi de signer leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. le roi retira le sceau de son doigt et le donna à Aman, fils d'Aminadab, l'Agagite, adversaire des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est abandonné, ainsi que ce peuple. Fais-en ce qu'il te plaira. » On convoqua les scribes royaux le 13e jour du premier mois, et l'on transcrivit tous les ordres d'Aman à l'intention des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des princes de chaque peuple. À chaque province, dans son écriture, et à chaque peuple, dans sa langue, ce fut écrit au nom du roi Assuérus et scellé du sceau du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait exterminer, tuer et faire périr tous les Juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. On pouvait les piller pour en prendre le butin. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province et l'édit qui devait être rendu public dans tous les peuples afin qu'ils se tiennent prêts pour ce jour-là. Les courriers sortirent en hâte par ordre royal et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Le roi et Aman s'installèrent pour boire. Mais la ville de Suse était en pleurs. Wow, c'est tout un drame là, qui est sur le point d'arriver, en tout cas, qui est envisagé. Le thème ici, c'est évidemment la haine contre les Juifs, mais une haine qui est démesurée. On s'en rend compte, hein? C'est vraiment hors de mesure, une haine meurtrière. C'est un grand génocide, finalement, qui est ordonné. Puis l'événement déclencheur, c'est le refus de Mardochée de se prosterner devant Aman. Aman qui avait été placé au plus haut rang, là, juste sous le roi. Et Mardochée refusait de se prosterner devant lui. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Parce que la raison n'est pas clairement dite dans le passage. Vous avez peut-être déjà réfléchi à la question. J'ai lu beaucoup de commentaires et les commentateurs ne sont pas tous d'accord. Plusieurs disent que s'il ne s'est pas prosterné, c'était pour honorer la loi de Dieu qui dit d'adorer Dieu seul. Que s'il l'avait fait, c'est comme s'il avait considéré Aman comme une espèce de Dieu et il aurait péché l'infidélité contre son Dieu. C'est possible, mais le texte ne dit pas ça. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'indication qui dit qu'Aman se présentait comme un dieu, qu'il devait être adoré. Se prosterner devant quelqu'un qui est en position d'autorité, c'est même recommandable. On voit ça souvent dans la Bible. Des personnages bibliques se prosternent contre un supérieur, hein, sans qu'ils soient en train de pécher contre Dieu, nécessairement. Donc, quoique c'est possible, je pense que la raison est autre. Il s'agit plutôt de l'identité nationale. Parce que le texte insiste sur ce point-là. Qui est Aman et qui est Mardochée? On apprend que Aman est un descendant d'Agag, le roi d'Amalek. Le peuple d'Amalek, donc des Amalécites. Et tandis que Mardochée, lui, est un descendant de Saül, donc du roi d'Israël, le premier roi en Israël, de la tribu de Benjamin. Et c'est historique, il y a eu un grand conflit entre Saül et le roi d'Amalek. Mais ce conflit-là remonte à plus loin que ça encore. Remonte à la sortie d'Égypte, à l'Exode. Et je vous invite à tourner avec moi dans l'Ancien Testament, là, un peu plus tôt, dans Exode 17. Donc, le deuxième livre de la Bible, Exode, chapitre 17. Donc, vous vous souvenez que les Israélites avaient été en captivité chez les Égyptiens pendant 400 ans. En fait, c'est là que le peuple s'est... a grandi d'une petite famille à un grand peuple innombrable. Et après 400 ans, Dieu les a fait sortir de là. Donc, ils ont passé à travers la mer Rouge, ils ont marché dans le désert jusqu'à la terre promise, mais c'est là qu'ils ont rencontré un obstacle, le peuple d'Amalek. Donc, Exode 17, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Et Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies Alors ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre. » C'est ce qu'on lit finalement. On voit que Dieu avait ordonné à Moïse de le prendre en note. « Écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Et Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard. Et il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc, l'Éternel n'a vraiment pas aimé que Amalek s'oppose à son peuple. En fait, il s'opposait à lui. Là. C'est le trône de l'Éternel qui était attaqué. Puis, ce jour-là, Amalek a subi une grande défaite. Puis on sait que par la suite, les Israélites ont tourné pendant 40 ans dans le désert. En Deutéronome, donc le cinquième livre là, du Pentateuque, enfin la deuxième génération arrive pour entrer en Canaan. Et Dieu leur rappelle, dans Deutéronome 25, juste avant qu'ils entrent, il dit, « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra pendant la route et qu'il coupa ton arrière-garde. » Tous ceux qui traînaient les derniers pendant que tu étais fatigué. Et ça parce qu'ils ne craignaient pas l'Éternel Dieu. Et lorsque l'Éternel ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel te donne en héritage pour prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Quand on lit dans Josué, là, ils n'ont pas exterminé Amalek. Et pendant toute la période des juges, souvent, ils ont été harcelés. Ça leur a causé des malheurs, finalement, que le peuple d'Amalek n'ait pas été effacé comme Dieu l'avait voulu. Jusqu'à la fin de la période des juges, on arrive à la période des rois, par Saül. On va y aller, jeter un coup d'œil à cela, dans 1 Samuel 15. 1 Samuel, chapitre 15. Verset 1. 1 Samuel 15, verset 1. Samuel, qui est un prophète de Dieu, dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait. À cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. » Saül battit le rappel du peuple et le dénombra à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek, et il mit une embuscade dans la vallée. Et il dit aux Kéniens, « Allez, écartez-vous, et descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui. Car vous avez eu de la bienveillance pour tous les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'au bord de Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il voua à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, et les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit. Ils vouèrent à l'interdit seulement ce qui était méprisable et chétif. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'exécute pas mes paroles. » Donc, Dieu était en colère contre Saül, hein, et finalement, le trône a été écarté de Saül, et c'est David qui a régné à sa place. Mais à cause de cette faute-là, parce qu'il n'a pas tué Agag, Agag a fondé une famille, puis, ou peut-être qu'il a continué avec sa même famille, mais il s'est multiplié, ce peuple-là a continué encore. Et même on voit dans l'histoire des rois que les Amalécites ont encore causé du trouble à Israël. Dieu a comme puni Israël pour leur infidélité avec même leurs ennemis. Jusqu'à finalement, à l'époque où ils sont déportés, ils se trouvent face à un descendant du roi Agag, qui est tout puissant et qui veut leur perte. Donc, c'est vraiment une guerre historique, là, voulue par Dieu, qu'il y ait une inimitié entre ces deux peuples-là, jusqu'à temps que son peuple tire vengeance du peuple qui avait osé affronter l'Éternel. Puis il semble que Mardoché connaissait son histoire. Il avait foi en Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on doit conclure. Mardoché savait qu'il était Aman, descendant d'Agag, et il refusait de se prosterner devant un ennemi de l'Éternel, devant un ennemi que Dieu avait déclaré comme ennemi, qui devait être considéré comme un homme méritant la mort. Même, il l'appelle au verset 10, dans Esther 3, l'adversaire des Juifs. Donc, c'est vraiment son rôle dans l'histoire d'être un adversaire des Juifs. C'est une autre indication de la foi de Mardoché ici. Là, la haine de Aman envers Mardoché est tellement grande, surtout quand il apprend que c'est un juif, puis il a la haine pour ce peuple-là, c'est tellement grand qu'il s'imagine qu'il ne pourra même pas être satisfait de torturer, de mettre à mort Mardoché. C'est pas suffisant pour lui. On voit l'ampleur de sa haine. Il veut exterminer tout le peuple. C'est une vraie folie. Mais il réussit à convaincre le roi de tuer, d'exterminer une partie, un peuple dans son royaume. Il devait être très habile, très séducteur, mais il réussit à convaincre le roi, mais il cache qu'il s'agit du peuple juif. On ne sait pas pourquoi, mais sûrement que c'est Dieu qui a permis cela. Il dit, il existe un peuple. Puis là, le roi lui dit, c'est correct, débarrasse-toi-en. Mais plus tard, quand le roi va apprendre qu'il s'agit des Juifs, et en plus que sa reine est juive, il ne sera pas content. Puis, Aman, pour justifier cela, il évoque des raisons qui sont complètement fausses. Supposément que ce peuple-là est rebelle, n'obéit à aucune loi, mais c'est pas ce qu'on entend. Et qu'ils sont aussi sans valeur pour le roi. Ce qui est faux, parce qu'il y en avait beaucoup, même dans la capitale à Suse, et parmi même la conciergerie royale. C'était des hommes, il y avait des hommes et des femmes importantes là, pour le roi. Donc, ça allait être une lourde perte pour le roi. Donc, c'était faux. Il y a au moins une raison qui est vraie ici, c'est qu'il dit que ce peuple-là, les Juifs, ont des lois à part qu'ils suivent, qui les distinguent des autres peuples. Ça, c'est vrai. En fait, c'est la chose majeure qui fait en sorte que les autres peuples les détestaient. Ils sont un peuple distinct. Les serviteurs de Dieu sont distincts. Et il propose au roi de les livrer, finalement, pour 10 000 talents d'argent. Puisque ça sera une perte pour le royaume, là, qu'il y ait des morts dans son royaume, et il va dédommager le roi en faisant entrer dans ses coffres 10 000 talents d'argent, c'est beaucoup. On estime qu'à l'époque, le revenu annuel là, qui rentrait pour le royaume, c'était 15 000 talents. Donc, c'est les deux tiers là, de revenu annuel que Aman lui propose. Où est-ce que Aman va trouver cet argent-là? Peut-être qu'il pense sortir ça de ses poches, mais il prévoit surtout piller les Juifs, en fait, s'en mettre dans les poches puis en fournir le roi avec cela. Puis, le roi, étonnamment, lui donne tout pouvoir dans cette affaire-là. Même, on dirait qu'il lui dit, garde l'argent pour toi, là, pour tes bons et loyaux services. Donc, tout semble bien aller pour Aman. Ça ne pourrait pas aller mieux. Il va pouvoir se venger, enfin, et s'enrichir. Puis, le 13e jour du premier mois, donc, ce n'est pas notre premier mois, là, c'est le premier mois de Nissan qui est au printemps, Aman rend officiel par décret le génocide de tous les Juifs. On voit ici la main de Dieu qui contrôle les événements. Parce que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on apprend justement que le 13e jour du premier mois, c'est la veille de la sortie d'Égypte. C'est la veille de l'Exode. C'était la veille de la délivrance d'Israël à l'époque où ils étaient captifs par les Égyptiens. C'est pas pour rien que ça tombe cette date-là. Là. C'était comme un clin d'œil que Dieu faisait à son peuple. Aussi, pour déterminer, ça c'est la date du décret, pour déterminer à quelle date va avoir lieu le massacre, Aman s'en remet au sort. Il appelle ça le pour. Le pour, c'est un terme à l'époque là, qui voulait dire jeter le sort, le hasard. Donc, il jette le sort sur tous les jours de l'année et ça tombe le 13e jour du 12e mois, donc exactement 11 mois plus tard, où là, il va avoir ce massacre-là. Encore une fois, on voit que c'est Dieu qui contrôle le hasard. Dieu a fait en sorte que ça soit 11 mois plus tard, exactement, pour donner une période de temps pour son peuple d'accomplir ou de mettre en exécution le plan qu'il va leur proposer pour leur survie. On lit dans Proverbe 16, « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Donc, Aman savait là, que les événements suivaient une force extérieure invisible, mais il refusait de reconnaître que c'est Dieu, en fait, qui contrôle tout cela. Puis la haine et l'attaque contre le peuple de Dieu, on voit que ce n'est pas un manque de contrôle de Dieu. En fait, ça fait partie de son plan. Dieu n'est pas en train de perdre le contrôle lorsque son peuple, ses serviteurs, à toutes les époques, c'est encore vrai aujourd'hui, lorsque ses serviteurs sont attaqués, persécutés, ça fait partie du plan de Dieu. Il contrôle d'autres choses. Même, ça fait partie de... Même, dans un sens, ça démontre sa souveraineté parce que Dieu l'a voulu comme ça. Souvent, même la haine envers les chrétiens aujourd'hui semble inexplicable, démesurée. On dit, ça se peut pas, là. Pourquoi les gens détestent autant un groupe religieux, une église? Pourquoi les chrétiens sont si ridiculisés, méprisés? Il y a quelque chose de surnaturel là-dedans et c'est une preuve de la souveraineté de Dieu parce qu'il y a une guerre spirituelle qui remonte même à l'origine des temps. On lit dans Genèse 3, on a vu la semaine passée que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a déclaré plusieurs malédictions, dont l'une qui frappait la femme, le couple. Mais il s'est adressé aussi au serpent, celui qui a fait tomber Adam et Ève, là, celui qui a fait tomber l'humanité dans le péché. Dans Genèse 3, 14, il dit, « Puisque tu as fait cela, » il s'adresse au serpent, « tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Donc, on imagine l'animal, le serpent, devait être, avant cela, debout sur ses pattes, fière allure. Je l'imagine un peu comme un dragon, quelque chose de majestueux qui a séduit Ève. Mais là, Dieu lui dit, là, tu vas ramper par terre. Là. Donc, lorsqu'on voit aujourd'hui un serpent qui rampe par terre, pour Dieu, Dieu nous dit que c'est une manière d'humilier cet animal-là. Et on sait que cet animal, en réalité, là, c'était une manifestation de Satan. Donc, c'est pour montrer que Satan a été humilié ce jour-là. Et depuis ce jour, pendant tout le reste de son existence, il est humilié. Il n'est pas capable d'avoir la gloire qu'il voudrait. Il est incapable d'avoir le contrôle qu'il voudrait. Ça demeure, malgré tout, le royaume de Dieu sur cette terre. Bon, qui a été envahi par l'ennemi, mais c'est quand même Dieu qui contrôle. Il reste humilié. Et Dieu le maudit aussi en lui disant, il continue au verset 15, « Je mettrai inimitié. » Inimitié, c'est comme... C'est le contraire de l'amitié, là. Je vais mettre une querelle, une guerre continuelle entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon, tu lui écraseras le talon. Donc, Dieu condamne Satan à être continuellement plein de rage, plein de haine, une haine qui lui fait perdre le contrôle. Parce qu'on pourrait se dire, avec les siècles, comment ça se fait que Satan ne se calme pas, là? Pourquoi qu'il ne réalise pas que Dieu est plus fort, pourquoi qu'il ne décide pas de se réconcilier, d'implorer la grâce de Dieu, de se tourner vers Dieu, de cesser le combat, en plus qu'il sait qu'il a perdu. Mais c'est Dieu qui le maintient dans cela. C'est Dieu qui endurcit son cœur, qui le maudit et qui le garde en querelle continuelle jusqu'à la fin des temps. Donc la persécution, en fait, contre les serviteurs de Dieu est une preuve de la souveraineté de Dieu. Parce que tout se passe selon ce que Dieu a décidé. Et ici, Dieu déclare qu'il y aura toujours une guerre entre ce que la Bible appelle les méchants, les injustes, et les justes, donc ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Comme on lit dans Psaume 37, verset 12, « Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste. Il grince des dents contre lui. » Donc, ce n'est pas seulement Satan qui est en guerre contre l'humanité, c'est la descendance de Satan. En fait, c'est tous les hommes qui sont esclaves du péché, esclaves du monde, esclaves de Satan, jusqu'à un certain point, donc peut-être à des proportions différentes, mais les hommes, les femmes sont en guerre contre les serviteurs de Dieu qui sont appelés la descendance de la femme. Et ça, pour toujours. Puis cette guerre-là a connu son dénouement lorsque le descendant de la femme par excellence est venu, Jésus, Jésus-Christ. Et on lit dans les évangiles que là, les forces de Satan, là, les forces du mal, ça, ont déferlé sur lui jusqu'à le faire exécuter. Il est mort, crucifié, pendu au bois. Mais c'était justement par cette mort-là que Dieu lui donnait la victoire finale de la descendance de la femme sur la descendance du serpent. Donc le serpent a eu la tête écrasée. La guerre continue depuis 2000 ans, une guerre spirituelle, jusqu'au retour de Jésus, mais elle est déjà gagnée. L'ennemi est déjà vaincu, et nous avons, grâce à Jésus, la vie éternelle qui est assurée. Donc Satan voudrait nous faire mourir, périr, et espère qu'on puisse aller en enfer, mais par Jésus, la victoire est déjà remportée, et nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà la victoire sur l'ennemi. Un jour, il sera détruit, mais déjà, la guerre est remportée. Donc, l'ennemi continue d'attaquer constamment, rempli de haine, selon la malédiction de Dieu. Et aujourd'hui, il s'en prend à l'Église. Donc, devant cette menace-là, comment on doit réagir? Comment réagit un serviteur de Dieu? Bien, on a un exemple, même dans le chapitre 4 d'Esther. Donc, si on retourne dans Esther, chapitre 4. Lorsque Mardochée eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements. Il prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Mais dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et les dits du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient beaucoup, se couchaient sur le sac et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour habiller Mardochée à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un de ses eunuques, que le roi avait commis à son service, et lui donna des ordres au sujet de Mardochée pour savoir de quoi il s'agissait, quelle en était la raison. Hatak sortit vers Mardochée sur la place de la ville vis-à-vis de la conciergerie royale, et Mardochée lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Et il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrerait à Esther et lui ferait un rapport, en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée, et Esther dit à Hatak, en lui ordonnant de le rapporter à Mardochée, « Tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, est mis à mort en vertu d'une loi. La même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or, moi, voilà 30 jours que je n'ai pas été invité à venir chez le roi. » Donc, on rapporta les paroles d'Esther à Mardochée, et Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues de te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et Esther fit répondre à Mardochée, « Mais va rassembler tous les Juifs qui se trouve à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Et dans ces conditions, j'irai chez le roi, malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. » Et Mardochée s'en alla pour faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Donc, comment réagissent les serviteurs de Dieu, les croyants, devant la menace, lorsqu'on réalise qu'on est impuissant pour contrôler les événements, qu'on est impuissant pour changer le cœur de ceux qui nous veulent du mal, même si on n'a rien fait contre eux, mais lorsqu'on est impuissant, comment on fait pour éviter cette souffrance et la mort même parfois, là, dont on peut être menacé? Mais finalement, les vrais croyants se tournent vers Dieu. C'est ça le réflexe, se tourner vers Dieu. Comme on l'a chanté tantôt dans le chant de Ville en village, on se tourne vers Dieu pour implorer sa grâce, pour puiser en lui la force. Et Mardoché et les Juifs, dans toutes les provinces, expriment leur douleur. Et on comprend, même si ce n'est pas spécifié, qu'ils expriment leur douleur devant Dieu. Là. S'ils s'humilient en enlevant leurs vêtements, se revêtant d'un sac couvert de cendres, c'est pour exprimer devant Dieu leur humilité, leur douleur. Et ils pleurent, ils jeûnent même. Donc, c'est sous-entendu qu'ils prient. Mais on a vu que dans tout le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Et l'auteur a fait le choix aussi de ne pas mentionner la prière. Donc, rien qui révèle directement une adoration à Dieu ou la présence de Dieu ou des paroles de Dieu. C'est un choix qu'a fait l'auteur, c'est pour donner un effet littéraire, pour montrer que Dieu agit dans les coulisses de manière invisible. C'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui contrôle tout, même si on ne le voit pas. Et seuls ceux qui ont la foi, finalement, discernent son action. Mais elle paraît vraiment évidente, là. Et les croyants qui lisent Esther voient l'action de Dieu, comme ils voient l'action de Dieu dans leur vie aussi. Mais ici, nous voyons qu'ils déversent leur douleur devant Dieu. Ils crient à lui, finalement. Et c'est une réaction normale, ce n'est pas un manque de foi. Jésus lui-même a fait cela. Devant la menace, il savait qu'il allait mourir et il a passé des heures à prier dans le jardin de Gethsémané avant sa mort, à prier Dieu que si c'était possible que Dieu éloigne de lui cette coupe. Plusieurs fois pendant son ministère, on le voit dans les évangiles que Jésus se retirait à part pour prier. Il avait besoin là, de retrouver la force en Dieu, que Dieu le fortifie, lui donne courage. Même parfois, il l'a fait devant ses disciples. Oui, il a intercédé, il a invoqué le nom de Dieu. On lit dans Hébreux 5, 7, « C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, offrit à grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Donc, Jésus l'a fait. Ici, on voit que les Juifs l'ont fait dans Esther, et c'est normal que nous le faisions. Si on est face à une grande douleur, une souffrance, une menace, une perte de contrôle, de l'angoisse, on se tourne vers Dieu, on vide notre cœur et Dieu nous entend. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. On se tourne vers Dieu, s'en remettre à lui, ça ne veut pas dire qu'on reste sans rien faire. Et très souvent, la délivrance que Dieu nous accorde passe par nos actions. Dieu va nous délivrer en nous faisant accomplir certaines actions, certaines œuvres qu'il a préparé d'avance pour qu'on les pratique, justement. De bonnes actions qui sont conformes à sa volonté. Ici, de toute évidence, c'est Esther qui a été placée en position d'agir. Mardoché en est conscient. Si Esther ne le fait pas, de toute façon, Mardoché est convaincu que Dieu va délivrer son peuple, puisqu'il l'a déjà promis. Il l'a promis par la bouche de ses prophètes, que même s'ils étaient déportés, même il a annoncé à l'avance qu'ils seraient déportés, qu'ils ne les abandonneraient pas, qu'ils ne permettraient pas leur extermination et qu'ils les ramèneraient. Donc Mardoché le savait que la délivrance, si ce ne venait pas par Esther, viendrait par quelqu'un d'autre. Mais Esther est placée dans une position pour agir. Ce n'est pas un hasard si Dieu l'a placée là. Mais en fait, l'action commence par Mardoché lui-même, qui rappelle, qui informe Esther de ce génocide qui a été décrété par Aman, et il lui fait prendre conscience qu'elle-même, elle est impliquée là-dedans. Ce n'est pas parce qu'elle est reine qu'elle va être épargnée. Quand on va savoir qu'elle est juive, elle va faire partie du massacre, elle aussi. Donc, elle est saisie personnellement par cette menace. Puis il lui dit, là, reine Esther, là, tu dois saisir cette opportunité. Saisir cette place d'influence dans laquelle Dieu t'a mise pour implorer le roi qu'il fasse grâce à ton peuple. Donc, il lui dit finalement de révéler sa nationalité. Là. Jusque-là, il lui avait dit de tenir ça secret, mais là, le moment est venu. Elle doit dévoiler qu'elle est juive au roi lui-même, là, puis l'implorer d'intervenir pour son peuple. D'ailleurs, il lui fait prendre conscience là, que c'est justement pour cela que Dieu l'a élevée comme reine de Perse. C'est au verset au verset 14. C'est probablement le verset le plus cité du livre d'Esther. À la fin du verset 14, il dit, « D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? » S'il ne le disait pas en mots cachés, là, il dirait que Dieu t'a établi à la royauté. Mais on voit, là, c'est une indication, c'est un indice placé par l'auteur, là, qu'il croit vraiment à la providence de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'elle se trouve reine, c'est finalement pour qu'elle puisse délivrer son peuple. C'est Dieu qui l'a placée là pour cela, dans la providence de Dieu. Mais Esther craint, elle a peur d'aller voir le roi, puis elle explique qu'il y a une loi à l'époque, et tout le monde la connaît, cette loi-là. La cour intérieure là, est réservée, c'est seulement le roi qui est là, et les proches là, que le roi invite. Donc le roi avait invité Aman, avait le voir, là, mais il dit, n'importe qui dans le royaume, peu importe son rang, si on se présente dans la cour intérieure, pour aller voir le roi sans avoir été invité, on est passible d'être mis à mort. C'est la peine de mort. Le seul moyen de ne pas être mis à mort, c'est si le roi, dans sa compassion, tend son sceptre d'or. Donc, il devait toujours avoir son sceptre, j'imagine, quand il était dans la cour intérieure. Donc, s'il tend son sceptre pour qu'on lui touche, on a la vie sauve. Sinon, on est mis à mort, peu importe qui on est. Donc, c'était un grand risque là, qu'elle encourait d'aller voir le roi. Puis, en plus, elle ne sait pas si elle va être bien reçue, parce que ça fait déjà un mois. Elle souligne que ça fait déjà 30 jours là, qu'elle n'a pas été invitée auprès du roi. Donc, on dirait que tout est contre. Les probabilités sont contre elle. Là. Donc, c'est vraiment un acte de courage, grand courage qui lui est demandé. Puis, elle n'a pas ce courage-là. Donc, elle demande aux Juifs, par Mardoché, que tous les Juifs dans le royaume puissent prier pour elle. Là. Donc, tous ceux qui vont le savoir, mais donc, ça va être les Juifs de Suse qui vont prier. Elle demande qu'ils jeûnent pendant 3 jours. Donc, c'est sous-entendu aussi qu'ils prient, qu'ils implorent Dieu. Et elle aussi va le faire. Dans 3 jours où collectivement, là, ils demandent la protection pour Esther. Puis ensuite, elle ira devant le roi au péril de sa vie. C'est ça la vraie foi, en fait. C'est ça la foi. C'est d'implorer Dieu en étant convaincu qu'il peut délivrer, il peut épargner du malheur. Mais sans savoir s'il le veut, en fait. On se soumet humblement à la volonté de Dieu. Elle dit, si je dois périr, je périrai. Donc finalement, elle s'en remet dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui décidera. Comme on lit dans Jacques, dans le Nouveau Testament, là, si Dieu le veut, nous vivrons. Nous ferons ceci ou cela. Mais Dieu peut vouloir qu'on meure aussi. Donc la foi, c'est de reconnaître humblement que Dieu est souverain, qu'il a tout pouvoir pour faire tout ce qu'il veut, mais que c'est lui qui décide. Donc, attention aux prédicateurs là, qui promettent que peu importe ce qu'on demande, avec autorité, qu'on peut finalement, par la foi, si on a vraiment la foi, on peut chasser tous les malheurs devant nous. Bien, c'est faux. Dieu peut permettre beaucoup de malheurs dans nos vies. Ce qui est sûr, ce que Dieu promet, comme là, il avait promis que son peuple n'allait pas être exterminé, ce qu'il promet pour l'Église, c'est qu'il va prendre soin de nous. Jusqu'au retour de Jésus, qui vont nous donner la force de passer à travers n'importe quelle épreuve, si on se confie en lui, il va nous rendre victorieux dans toutes les épreuves, toutes les tentations. Il n'y a aucune tentation, dit donné, qui soit au-delà de nos forces. Et à chaque fois, il nous donne le moyen d'en sortir. Mais il ne dit pas que si on a la foi, on va éviter tous les malheurs. Ou même qu'on va toujours être délivré. C'est possible même que finalement, on décède. Là. On fait partie d'un monde qui a été... qui connaît la malédiction de Dieu, vivre sur cette terre, c'est difficile. Ça a été rendu difficile par Dieu, où on doit cultiver le sol à la sueur de notre front, on doit travailler dur pour survivre, jusqu'au jour où on retourne à la poussière. Et on va tous mourir, on n'y échappera pas. Mais ce qui est la promesse de Dieu pour les croyants, les chrétiens, c'est que finalement la mort, c'est une délivrance. C'est qu'enfin, on est amené dans son royaume qu'il nous prépare, un royaume où il n'y aura plus jamais de souffrance, plus jamais de malheur, de menace, plus jamais de douleur. Ici, c'est touchant de voir que Esther est prête à mourir pour son peuple, en fait. Si elle va intervenir devant le roi, parce que la solution la plus facile, ça serait de se cacher puis d'essayer de faire en sorte que personne ne sache jamais qu'elle est juive, là. Mais elle va prendre le risque, elle va aller devant le roi, elle met sa vie en danger, elle est prête à mourir s'il le faut, pour sauver son peuple. C'est touchant. Jésus dit dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est vraiment une marque d'amour d'Esther ici, envers son peuple, envers ses frères, ses sœurs, sa nation. Donc c'est Jésus qui dit cela, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et il l'a fait. Jésus est mort pour nous sauver de l'enfer. Jésus voyait, puisqu'il est Dieu, qu'il est envoyé sur terre, là, il voyait toutes ses brebis sans berger qui couraient droit vers le précipice. Il voyait des millions, des milliards d'âmes qui allaient en enfer. Là. Il est mort à leur place. Il est mort pour les sauver. Il est mort, en fait, pour sauver de l'enfer tous ses amis. Êtes-vous un ami de Jésus? J'espère que oui. Êtes-vous un ami de Jésus? Si vous l'êtes, c'est parce que vous suivez Jésus. Non seulement vous avez cru en lui, mais vous obéissez à ses commandements. Jésus dit que celui qui est mon ami, c'est celui qui fait ce que je commande. Et ce qu'il nous commande, c'est de l'imiter. D'imiter cette même vie d'amour pour les frères et pour les sœurs. D'imiter Esther, imiter le courage des personnages bibliques qui ont été prêts à mettre leur vie, leur sécurité en péril, comme Paul qu'on a vu dans les Actes des Apôtres, comme les apôtres, comme Étienne, comme beaucoup de chrétiens du Nouveau Testament et beaucoup de chrétiens qu'on connaît qui ont mis leur vie en danger pour être prêts à sauver leurs amis. Donc, c'est possible même que Dieu vous demande de mourir même, d'être prêt à mourir en tout cas, pour vos amis, pour les chrétiens, pour Dieu. Pourquoi c'est possible que ça arrive? Parce que, comme on l'a dit, la guerre spirituelle se poursuit sur la terre. Et la guerre a pris une nouvelle forme là, depuis que Jésus est venu et qu'il a établi son Église. La guerre spirituelle, là, vraiment, a comme enjeu principal la proclamation de l'Évangile. Comme on a chanté tantôt, nous allons de ville en village, c'est comme des soldats qui sont au front, là. Puis on va porter cette bonne nouvelle-là. Mais l'ennemi ne veut pas. Vraiment, ce qu'il souhaite, ce qu'il tente d'empêcher à tout prix, là, c'est la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'ennemi ne veut pas que cette bonne nouvelle-là soit annoncée dans le monde, que des âmes soient sauvées. Il veut nous taire, nous faire taire, en tout cas. Comme Esther, ici, elle était tentée de se taire. Mais comme Mardochée lui a dit, si tu continues à te taire, bien, le soulagement et la libération va surgir d'un autre côté. Si les chrétiens se taisent, Dieu va quand même accomplir son œuvre. Il va quand même sauver ses élus par d'autres chrétiens. Finalement, chacun de nous, on a le privilège de pouvoir servir Dieu en tant que soldat dans cette bataille-là. Si on se tait, bien, Dieu va accomplir quand même son œuvre. Il n'est pas dépassé, mais on va perdre ce privilège-là de servir Dieu. Et Satan veut non seulement que les chrétiens se taisent, il veut aussi les corrompre. Il veut toucher notre cœur, nous faire tomber dans le péché, nous rendre inactifs à cause du pouvoir du péché. Il veut faire en sorte que les chrétiens n'agissent plus différemment des autres nations, qu'ils ne soient plus distincts, qu'ils se confondent au siècle présent et qu'on ne puisse plus distinguer finalement quel est un chrétien par rapport au reste de la population. Il veut faire en sorte qu'on ne suive plus la loi de Christ, finalement. Il faut avouer que c'est tentant, parce que si on arrête d'être différent des autres, là, on va peut-être trouver un peu de calme, on va arrêter d'être ridiculisé, méprisé, victime d'injustice, on va pouvoir cesser la persécution contre les chrétiens. Donc c'est tentant, là. C'est comme si la paix, là, le confort nous est mis sur un plateau d'argent. C'est Satan qui est derrière cette tentation-là. Et chacun de nous, on a été placé par Dieu dans des situations particulières, là, parfois dans des positions même d'influence dans la société. Certains d'entre nous font partie de comités d'influence dans des entreprises ou dans la population. On peut avoir parfois une influence même auprès des députés. On a une influence auprès des voisins où on habite dans le quartier, des collègues d'études, des collègues de travail. Dieu nous a placés à un endroit particulier en nous confiant une tâche que finalement personne d'autre, à qui cette tâche-là n'a pas été confiée, à personne d'autre. Là. Comme on voit qu'à Esther, là, elle avait une tâche particulière, là. Et Dieu a un plan pour chacun de nous, à l'endroit où il nous a placés. Et qui sait si Dieu ne nous a pas placés là justement pour agir en faveur de son peuple, en faveur de l'Évangile? Et bien sûr, la réponse est oui. Mais si si vous avez révélé à ce cercle de connaissances que vous avez, ce cercle d'amis, que vous êtes chrétien, peut-être que vous avez commencé à avoir du rejet, du mépris, de l'injustice, de la moquerie, jusqu'à une forme de persécution. Et c'est normal, Jésus nous a averti que ça allait arriver. Mais ayons ce même réflexe-là que les Juifs à l'époque d'Esther, de nous tourner vers Dieu, de crier à lui, d'ouvrir notre cœur même. Pas faire semblant qu'il n'y a rien s'est passé, là, mais vraiment d'être conscient du mal qui nous est fait, puis de le dire à Dieu, de prier, d'implorer sa grâce qu'il nous libère de cette menace, qu'il nous délivre. Même jeûner, si vous voulez passer un temps à vous consacrer à la prière. Et Dieu va honorer cela. Et prenez courage, agissez selon ce que Dieu vous met à cœur. Il y a des œuvres que Dieu a préparées là, pour que vous les pratiquiez, il va vous les montrer. Prenez courage, agissez. Dieu est plus fort que l'ennemi, il va le faire fuir devant vous. D'ailleurs, Jésus l'a déjà vaincu. Donc, que Dieu nous donne le discernement, justement, pour savoir comment agir, quelle est sa volonté, qu'il nous donne l'humilité aussi. Bon, aujourd'hui, si on se réveille d'un sac puis de cendres, ça ne sera pas compris par la population, notre geste, mais qu'on soit humble devant Dieu, qu'on fasse appel à lui, là. On avoue qu'on n'a pas de contrôle sur les événements, qu'on compte sur lui par la foi et qu'on ait le courage de lui obéir. C'est la recommandation de Pierre qu'il fait à l'Église à laquelle il écrit. Donc, je vais terminer par vous lire 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 11. Alors, peut-être que vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre 5, verset 6. S'il y a un thème qui revient souvent dans Pierre, c'est d'être humble, l'humilité. Comme on l'a vu avec Mardochée et Esther, qui sont humbles devant Dieu, qui se soumettent à sa volonté, c'est la règle. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, et vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen.